en ce samedi saint, de faire aussi une démarche de foi, de peut-être il y a des deuils à faire dans nos vies, des renoncements à faire, des choses à lâcher, des chemins de mort auxquels nous sommes très attachés et au fond qui ne portent pas, qui nous empêchent de porter du fruit, qui nous empêchent d'être féconds. Au fond, qu'est-ce que c'est le renoncement, le deuil? C'est d'abord l'adaptation de l'être humain à la perte, au manque. Ce sont des mouvements qui font partie de la vie, à la fois douloureux, mais qui sont naturels, en ce sens qu'ils sont universels et puis inévitables. Le renoncement, c'est ce qui peut être entendu comme attachement à un chemin de mort, c'est-à-dire attachement à ce qui, en moi, j'ai préféré un chemin de mort plutôt que le chemin de vie que le Christ me propose. Prendre un autre chemin, j'ai préféré me morfondre dans le passé, j'ai préféré entretenir la tristesse, j'ai préféré... me mettre dans une attitude accepter l'emprise ou rester encore dans la colère, même si la colère, on a vu que l'épreuve nous permettait de traverser ou de découvrir notre colère, notre violence. On a tous beaucoup de violence. Donc quand on a souffert, il y a tout de suite une colère qui peut revenir, etc. Ben, justement, c'est bien de traverser, mais un chemin de mort, c'est s'y complaire. C'est se complaire dans la tristesse, se complaire dans la colère, alors que le Seigneur nous demande de choisir la vie. Et le deuil, de ce point de vue-là, c'est un processus lent. Ce n'est pas forcément un acte précis. On s'adapte aux pertes, on s'adapte aux manques. Au manque de toutes sortes que l'existence nous impose. Et ça nous permet, quand on accepte ça, quand on accueille ça, ça nous permet de nous mettre, de nous retourner vers la vie et au fond d'être dans une attitude plus positive. Il est bon, d'abord, on peut dire, d'accepter, pour rentrer dans ce chemin de vie, d'accepter... sa propre histoire. D'accepter sa propre histoire, c'est-à-dire l'acceptation de soi-même, qui consiste à abandonner le désir de vengeance, les ruminations, les rancœurs, les regrets. On se détache des espérances illusoires, on cesse de rêver à ce qui aurait pu être. On renonce à vouloir changer le passé. C'est cette profonde adhésion au réel, ce oui dans la foi à ce qui est notre vie et ce qu'a été notre vie dans le passé. C'est consentir au fond à la réalité de toute notre histoire, avec sa part de lumière, avec sa part d'ombre. On se donne aussi le droit d'avoir pu échouer, d'avoir pu suivre des chemins justement de mort, mais on se donne le droit d'avoir, de s'être trompé de chemin. Et on sait que ce chemin de deuil, d'acceptation de soi-même, et donc fait qu'encore on n'est pas forcément guéri de tout, et on a encore des peurs, on a encore la tristesse, on a encore la jalousie, etc., en sachant qu'on peut réorienter toutes ces émotions vers la vie. Et c'est vrai que cette acceptation de soi ne saurait aller sans un accueil plénier du pardon de Dieu. Au fond, l'acceptation de soi, c'est sortir de la toute-puissance. La toute-puissance peut être à différents niveaux. La toute-puissance par rapport au temps, au rythme de l'autre, au rythme de Dieu. Accepter cette dimension de patience, accueillir cette patience. Patience, vous le savez, vient de patior en latin, qui veut dire la passion. Donc, qui dit patience dit aussi souffrance, dit aussi pénibilité. L'humilité face au temps, c'est l'accueil aussi de la limite. Et renoncer à vouloir mettre aussi dans 24 heures plus que 24 heures. Renoncer à cette course du temps et où on veut aussi que le temps soit nous suive dans tous nos désirs, alors que c'est aussi à nous à nous adapter à lui. L'accueil de la limite, c'est quelque chose de très pas facile, qui est un vrai acte d'humilité. L'humilité face au temps, c'est l'accueil de chaque jour qui construit aussi la fidélité. Vous savez que peut-être un des obstacles à la fidélité, parfois à l'engagement, je vois des personnes qui ont du mal à s'engager dans telle ou telle voie, etc., c'est une certaine vision du temps qui n'est pas adaptée. Il y a une forme de condensation du temps. On voit le temps, voilà, je vais. Je m'engage pour 40 ans, pour 50 ans, je pense, des grands engagements à vie. Alors que non, il y a un mensonge là-dedans. C'est une tentation, la condensation du temps. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Et c'est d'aujourd'hui en aujourd'hui que je me retournant en arrière, faisant mémoire du passé, je dis déjà 5 ans, déjà 10 ans, déjà 20 ans. Mais c'est ce carpe diem chrétien. Carpe diem, ça veut dire cueillir le jour. Je cueille le jour. C'est cette attitude contemplative, au fond, face au temps, qui est menacée de toutes parts. Que ce soit par les moyens, la condense, la rapidité, l'immédiateté de la technologie, par toute une mentalité d'efficacité, de management à la pression, de voilà, tout ça qui nous empêche d'accueillir le temps de l'autre et notre propre temps. Découvrir, par exemple, l'accueil du temps, c'est aussi découvrir quel est notre temps, quel est, par exemple, qu'est-ce qui me repose? Moi, j'ai mis du temps à découvrir ce qui me reposait vraiment. Qu'est-ce qui refait nos forces? Hein, le repos, c'est important parce que le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Ce n'est pas juste le non-travail. Le repos, c'est, dans une dimension chrétienne, c'est aussi l'affirmation de Dieu. Hein, c'est je ne suis pas tout-puissant, la terre tourne sans moi, d'autres travaillent. Et donc de donner aussi la place au repos, c'est aussi redimensionner la place du travail. Sortir s'accueillir soi-même et sortir de la toute-puissance aussi liée au corps. L'accueil de son corps, on a le corps qu'on a, voilà. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont minces, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont jeunes, il y en a, voilà, c'est blond. On a le corps qu'on a, voilà. L'accueil de. D'avoir un regard de foi sur son propre corps. Il y en a qui ont des cœurs blessés, malades, handicapés. C'est important l'accueil de son corps parce que c'est vrai. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre corps. pas seulement par notre âme. Tout en nous est image et ressemblance. Et c'est le pape Jean-Paul II qui a développé cette admirable théologie du corps, hein, qui rappelle que le corps, ça rend visible l'invisible. C'est sa mission du corps, c'est de rendre visible. Et il rajoute que ce soit dans l'intimité des époux ou dans le mystère du Christ qui révèle le Père. C'est-à-dire que c'est de se rendre visible ce qui est invisible, c'est la mission du corps. C'est pas juste un amas de cellules. Donc l'humilité face à son corps, l'humilité face à son corps est face aux limites du corps. Est-ce que j'en suis justement de est-ce que je tire sur la corde? Est-ce que j'accueille ben voilà, que je n'ai plus 20 ans maintenant, que j'ai peut-être besoin de plus de temps de repos? Est-ce que je suis aussi humble pour me faire soigner quand j'ai besoin et demander de l'aide, etc. Donc je pense que c'était tout ça, cette attitude face au corps. Et puis l'attitude face au corps de l'autre, une humilité face au corps de l'autre, c'est ce qu'on appelle la chasteté. Hein, la chasteté, c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre, hein, singulièrement dans la relation amoureuse. L'autre n'est pas à ma disposition. C'est ce qu'on a vu ce matin avec les formes d'orgueil. L'orgueil de la chair, c'est vouloir que l'autre soit source de plaisir, et c'est la convoitise, c'est les doigts crochus, mettre la main sur l'autre, comme utilisation de mon plaisir. Il y a un autre point, une humilité aussi, un renoncement, une acceptation et un renoncement à toute puissance dans l'intelligence. C'est certainement le plus difficile. Ça paraît même contradictoire dans les termes, parce que justement, l'intelligence, c'est quelque chose d'infini en nous. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre corps, bien sûr, mais nous contemplerons Dieu dans l'au-delà par notre intelligence et nous l'aimerons par notre volonté. Et donc de découvrir justement que il y a l'intelligence qui est amenée à passer par la porte des pauvres, par la béatitude des pauvres. C'est-à-dire l'accueil du réel, l'accueil du temps, l'accueil de la limite, toute chose qui lui est parfois difficile, pénible. Mais l'accueil du réel, justement, c'est la condition pour que l'intelligence, elle soit féconde. Parce qu'une intelligence qui n'est pas captée sur le réel, qui n'est pas tourné vers le réel, qui ne reçoit pas du réel ces informations, mais se prend elle-même comme propre source de sa réflexion, c'est-à-dire tourne en boucle, parce qu'on jouit de la manière de concevoir, d'avoir un système de concepts très huilé, parce qu'on est très brillant, etc. Et donc, ça c'est une jouie. Mais il y a un enfermement. On n'est plus ouvert. Hein, c'est Aristote qui rappelle que voilà, c'est l'intelligence, hein. Rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens, les cinq sens. Donc l'humilité de l'intelligence, l'accueil de la, c'est accueillir aussi ce réel qui m'est donné. Et renoncer, c'est un renoncement, c'est un vrai deuil, à donner à ses désirs l'infini de l'intelligence. C'est accueillir une certaine frustration, au fond. Une certaine limite. Cette limite, elle est frustrante, mais elle est en même temps structurante. C'est ça qu'il faut voir. C'est une limite dans notre vie, si on l'accueille de la main du Seigneur. Humainement, elle est frustrante, que ce soit une limite dans le corps, une limite dans notre intelligence, et on va voir d'autres aspects. Mais elle est structurante aussi. L'interdit, par exemple, que Dieu donne en Genèse, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre du bien et du mal, l'interdit, Il est frustrant face à notre toute-puissance, mais il est structurant et il permet la communion interdit entre des personnes. Et le fait qu'il n'y ait plus d'interdit, ça fait que la communion n'est plus possible. Parce que c'est la toute-puissance de chacun, celui qui crie le plus fort. Il n'y a pas quelque chose de commun sur lequel se raccrocher et qui fixe des limites. Il n'y a plus d'objectivité d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour rentrer dans une communion, il y a accepté de passer par une certaine pénibilité. Sortir de ce principe de plaisir de l'enfant, du nourrisson, bon, quand on est nourrisson, c'est bien, mais sortir de ça pour rentrer dans ce principe de réalité. Et l'intelligence aussi, quelque part, grandit à mesure aussi qu'on rentre dans une dimension de foi. Rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit hier, la foi est dans l'intelligence. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Quand vous avez dit Amen à la communion au corps du Christ, vous dites c'est vrai. C'est ça que ça veut dire, c'est vrai. Et là aussi, de peut-être renoncer à une foi un peu immature, on voit beaucoup parfois basée sur la sensibilité, basée sur... Bon, très bien, si vous avez des grâces sensibles qui vous sont données pour avancer, ça peut être une étape dans une vie certainement, parce que le bon Dieu nous rejoint là où nous en sommes, et peut-être la sensibilité a été un point de démarrage pour certains, mais à un moment donné, je pense, c'est de devenir adulte, hein, c'est justement de dire, je n'ai plus besoin de ça, c'est même si je ne ressens rien. C'est pas pour ça que je ne crois pas. On ne perd pas la foi comme on perd son portefeuille. Donc voilà, de mettre de la rationalité dans la foi aide beaucoup à la structurer et à durer, à nous. Voilà, on passe dans un régime voilà, de croisière où on n'est plus sans cesse en quémant. Voulant revivre, nous mettons dans des situations où nous avons expérimenté hein, tel ou tel, ça m'a fait gousi-gousi à l'intérieur, etc. Ça m'a fait des tas de choses, ça m'a fait des bon. Très bien, mais c'est pas ça la foi. Oui, c'est ça la difficulté, c'est qu'on est tellement dans une dérive émotionnelle dans notre société et peu structurée au plan de l'intelligence. Voilà, que c'est. On dénie aussi le côté rationnel de la foi. Il faut aussi, au plan de notre volonté, il y a un renoncement dans notre volonté. Notre volonté, c'est notre capacité d'aimer. Vouloir, c'est aimer, aimer, c'est vouloir. Et donc, dans notre volonté, c'est aussi renoncer au désir d'avoir raison, le dernier mot. Mais aussi accepter que nous avons parfois des faiblesses dans notre volonté. Des faiblesses dans notre. Des manques de force, des manques de courage. On a vu ce matin les vertus. Rapidement, hein, mais voilà, de manque de courage. Donc, c'est des manques d'amour. Ce qui est très marquant dans la passion, c'est vraiment le Christ qui est. Une fois l'agonie passée, mais il y va, quoi. Il y a. Tout s'effondre devant lui. On l'a lu dans la lecture hier de Saint Jean, de la Passion. Hein. Les soldats, même, c'est qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et là, les soldats tombent à la renverse, etc. Et ensuite, les témoignages se contredisent. Une fois ça, la décision du cri, l'agonie passée, une fois, voilà, il s'avance volontairement vers la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Il s'avance volontairement vers sa passion. Et même le pouvoir civil trouverait à redire, et même les religieux, entre autres, ont des témoignages contradictoires, le Sanhédrin, etc. On voit que face à cette décision d'accueillir la volonté du Père, après ce moment de combat jusqu'aux larmes de sang, etc., la sueur de sang, eh bien, une fois donné ce oui dans son humanité, rien, quelque part, lui résiste à ce oui. Ils n'ont plus que la chair sur laquelle s'acharner. Il y a aussi un autre point, c'est l'acceptation de sa sensibilité. Il y a une forme d'humilité par rapport à sa sensibilité. Et n'appelons pas sensibilité chez nous, ce qu'on appelle susceptibilité chez les autres. C'est-à-dire que moi, je suis sensible, mais elle, qu'est-ce qu'elle est susceptible? On peut rien lui dire. Mais moi, qu'est-ce que je suis sensible? Bon. Donc, attention à ça, hein. Mais je trouve qu'il y a aussi à évangéliser notre sensibilité. Hein, notre sensibilité, nos réactions, toute la partie des émotions. On voit bien, bon. Peut-être parce qu'elles ont été mises sous le boisseau trop longtemps dans des éducations, on ne voulait pas transmettre les émotions, exprimer les sentiments, etc. Bon, certainement, ça, on voit des effets de balancier, hein. Dans cette sensibilité, il y a la sensibilité, ce qu'Aristote appelle la sensibilité interne, et dans la sensibilité interne, il y a l'imagination dont on a parlé ce matin. Donc il y a aussi à apaiser notre imagination, notre imaginaire. L'acceptation aussi de soi-même, c'est rentrer dans une forme de courage. Et attention à la fausse humilité qui nous ferait désirer quelque chose, les choses les plus faciles, surtout qu'on oublie hein, ce qu'on appelle la pusillanimité, les personnes pusillanimes. Hein, ça s'oppose à magnanimité, magnanima, grandeur d'âme. Cette fausse humilité qui fait surtout qu'on m'oublie, voilà, quelque part, je veux pas souffrir aussi, parce que je veux pas être exposé, parce que dès qu'on a une responsabilité, dès qu'on a, forcément, on est critiqué, forcément, on a, voilà, on a des revers, forcément, vous le voyez partout, que ce soit les personnes qui sont en responsabilité autour de vous, comme vous-même, dans les parts de responsabilité que vous avez pu avoir au plan personnel ou professionnel. Justement, devenir adulte, c'est accepter de porter les autres. C'est ça, devenir adulte. J'accepte de rentrer dans une logique de j'ai été porté pendant X années, maintenant je porte d'autres. Et donc, d'avoir de la grandeur d'âme, ça demande une vraie grandeur d'âme. Et donc, c'est renoncer à cette part encore d'enfance, je veux dire d'infantilisme plus exactement en nous. Et c'est intéressant de voir que saint Thomas d'Aquin, quand il parle de l'humilité, il dit la magnanimité, c'est-à-dire la grandeur d'âme, désirer des grandes choses, voilà un signe d'humilité. Alors que spontanément, on ne dirait pas. Spontanément, on aimerait, non, ah non, faut se faire oublier, surtout que, voilà, je sois le dernier des derniers, faut que je... désirer des grandes choses, voilà le signe de l'humilité. Donc ce deuil, c'est l'acceptation de soi-même avec les différentes composantes là, que je viens de nommer. Ce deuil aussi consiste à accepter l'autre tel qu'il est. L'accueil de l'autre tel qu'il est conduit à lâcher prise, à le laisser aller librement son chemin. Ça, j'en parle dans le livre là, sur la question du discernement avant le mariage. C'est la première partie où j'ai consacré pas mal d'énergie là-dessus. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Et je vois comme ça, parfois, peut être des difficultés pour des couples. Mais ce n'est pas que pour des couples, c'est des personnes célibataires. Quelque part, ça se joue encore plus pour des personnes célibataires. cette différenciation, c'est-à-dire je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas moi. Quand on a forcément, quand on est parent, on a des attentes. C'est-à-dire plus on aime quelqu'un, plus on a des attentes sur cette personne, et il nous semble que ce serait ça qui serait bon, ce serait ça que ce sera le bon chemin. Forcément, c'est légitime, mais il faut renoncer à ça. C'est renoncer à une emprise sur l'autre, à une emprise sur le chemin de l'autre. Et ça, c'est pas facile. Parce que peut-être on voit l'autre en train de malgré nos avertissements, malgré les warnings qui sont allumés, etc., on voit l'autre en train peut-être d'aller dans un mauvais chemin. D'une manière ou d'une autre, le chemin de Dieu s'accomplit. C'est ça, d'avoir une attitude de confiance. Donc l'acceptation de l'autre, c'est vraiment se différencier. Je n'ai pas à me projeter, à projeter sur l'autre mes désirs, mon timing, mes projets. C'est pas être indifférent à ce qu'il vit, non. C'est juste se préoccuper d'eux, mais en renonçant à l'emprise, en renonçant à la toute-puissance sur l'autre. C'est avoir une bonne distance. Et justement, un des chemins de mort fait que on est maintenu dans des relations parents-enfants, parce que moi c'est surtout ça dont je parle, dans des relations parents-enfants, on est maintenu dans une forme d'infantilisation. Et quelque part, on s'y complaît. Parce que c'est rassurant. Parce que devenir adulte, c'est peut-être compliqué. Et donc peut-être le premier acte à se poser quand on se marie, c'est de désobéir. C'est-à-dire de ne pas répondre à l'attente des parents. Alors c'est pas qu'on ne veut pas répondre à l'attente des parents, c'est que juste, voilà, notre chemin n'est pas leur chemin. Je me souviens par exemple cette jeune fille qui me disait, qui était tellement dépendante de sa maman, etc., on se sentait vraiment une emprise, elle a peur de... Elle dit, je ne pourrais pas donner un prénom à mes enfants que maman n'accepte pas. Ne valide pas. Oui, donc on ne va pas. Oui, je vois, donner un prénom n'est pas non plus aller dans un chemin de perdition complet. Je veux dire, mais c'est qu'un prénom. Mais même là, je veux dire, ou certains, le choix de l'autre, voilà, ils veulent valider le choix des parents. Parce que ce qu'il faut voir dans la formation d'un couple aussi, c'est que ça continue au fond la famille. Et donc du coup, tout ce qui est de la famille se rejoue. Et donc de renoncer à ça, c'est même pour le bien, mais c'est pour le bien maintenant. Il y a des gens qui sont tellement intrusifs, dirigistes, c'est toujours pour le bien. Non, le bien, c'est qu'il aille et suive ses vues. Je veux dire, c'est qu'il aille son chemin. Et c'est une condition de l'amour que d'avoir, et à l'intérieur même du couple, de la famille, à l'intérieur d'une communauté, etc., de renoncer à cette forme d'emprise. C'est aussi le chemin de deuil et d'acceptation. C'est l'acceptation de soi-même, l'acceptation de l'autre, avec aussi, on a vu, le temps de l'autre, hein, quel est son temps, etc. Mais c'est aussi le chemin d'acceptation de l'événement. Hein, l'événement tel qu'il m'est proposé. Les événements dans nos vies. Hein, je vous l'ai dit, cette citation du. Comment on appelle ça, du philosophe Pascal, hein, les nécessités, hein, voilà nos maîtres spirituels. Les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. C'est-à-dire des choses que l'on n'a pas pu forcément choisir dans nos vies. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Des choses qui s'imposent à nous. Bien, comme croyant, eh bien, on a un regard de foi là-dessus. On a, C'est là où la différence entre la personne qui est croyante et pas croyante, c'est qu'elle a un regard de foi, c'est-à-dire qu'elle voit dans ce chemin-là qu'elle a vécu, même des choses difficiles, douloureuses, etc., quelque part une manière que le Seigneur a de la rejoindre. Et vivre le samedi saint, c'est se laisser rejoindre par l'Esprit du Seigneur pour faire, pour accueillir au fond cet événement comme une source de vie. Et il en va de la fécondité de nos vies. Adhérer à la, consentir à la réalité est une façon, en fond, d'arriver au port, hein, et après avoir peut-être beaucoup ramé, certainement, mais et d'essuyer des tempêtes. Mais bon, c'est un moment charnière, c'est un mode, c'est vraiment, c'est ça, c'est oui, Jésus. Simplement ça. Le oui, on rentre dans le oui du Christ au Père. C'est pas mon chemin, c'est pas ce que je voulais. J'accueille ça, cette réalité. Je sais que pour certains d'entre vous, voilà, la question du célibat est une question douloureuse. Eh bien, je n'ai pas reçu les couples, alors peut-être que pour eux aussi, la question du couple est une question douloureuse, mais bon, ça. Comme il y en a trop peu dans l'Assemblée, je préfère être discret et je ne le sais pas. Mais toujours est-il que, pour certains en tout cas, et des jeunes professionnels que je fréquente beaucoup, et je vois de cette question du célibat comme compliquée. Ben, où est-ce que j'en suis? Parce que là aussi, de cette circonstance, cette nécessité, je n'ai pas choisi, je n'aurais peut-être pas surtout choisi. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'accueille ça? Est-ce qu'il y a une forme de lâcher prise, de confiance, de confiance? Et si ceux qui sont en couple ou des gens en couple ou en projet de couple, etc., savent aussi bien qu'il y a aussi un renoncement aussi par rapport à l'idée que je me fais de l'autre, ou je me faisais de l'autre. L'accueil de la réalité, c'est vraiment le grand défi de nos vies, hein. C'est que le réel tel qu'il est. Hein, le renoncement, justement, le deuil, le travail de deuil, et on est le jour du samedi saint, et ce travail de deuil, il marque toute l'Église, c'est le choix vigoureux, hein, de quitter le chemin de mort pour choisir un chemin de vie. Et il est complet ce travail de deuil que si vraiment on le poursuit par l'accueil du don de Dieu qui renouvelle toute chose. Par l'accueil au fond de la résurrection qui viendra vivifier toute chose. Et le samedi saint, c'est justement un lieu ou un temps où Jésus descend dans nos lieux de mort. Si nous lui ouvrons la porte, il va pénétrer jusqu'à la racine des chemins de destruction que nous avons pu prendre. Il vient visiter et sauver ce qui est perdu en nous. Nous aider à sortir de nos captivités, nous libérer de nos chaînes. C'est ça le samedi saint. Et dans ce sens-là, c'est un temps magnifique parce que c'est vraiment un temps d'espérance, de foi vivante. Jésus vient nous chercher là où nous avons perdu la route. Il vient nous manifester que nous ne sommes pas des laissés pour compte. La bonne nouvelle est annoncée dans les lieux où elle ne l'avait jamais été auparavant. Ce que tu voyais comme malédiction, manque de bol, eh bien le Seigneur vient te transformer, vient visiter en ce jour. Et toute la passion du Christ, hein, toute son agonie, surtout son agonie, n'a de sens que pour visiter en nous, hein, par son Saint-Esprit, nous revivifier, hein, nous défaire de ces chemins de mort, hein, dans lesquels on a pu s'enfermer. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Lazare, Lazare, viens ici, dehors, sors du tombeau. Et donc c'est la démarche qui va vous être proposée de laisser le Seigneur entrer dans nos tombeaux. On a tous des tombeaux ou des lieux où on ne souhaite pas vraiment que le Seigneur rentre parce que ça, ils se complaisent dans leur œuvre mauvaise. Hein, vous vous rappelez le prologue de Saint Jean, hein, ils préfèrent les œuvres des ténèbres parce qu'en fait, s'ils se complaisent là-dedans, ils refusent la lumière parce qu'ils préfèrent les œuvres de ténèbres. De dire au Seigneur, viens visiter en moi cette complicité avec le mal. Ouvrir la porte. Ouais, on écoute justement le Christ qui nous parle à travers cette parole de l'Apocalypse que vous connaissez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.